Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Robert Daudelin.
Bonjour, Guy.
Bonjour, Robert. Au menu d'aujourd'hui, nous allons recevoir Ariane Lorrain afin de parler du très beau film Zagros, tourné à l'ouest de l'Iran, sur ce métier en disparition, qui est les gens qui font du tapis. Et dans notre premier segment, nous allons poursuivre notre dossier sur l'ONF avec M. Claude Jolicard. Bonjour, Claude Jolicard.
Bonjour, bonjour, Claude.
Commissaire à l'ONF. Je rappelle que l'ONF fait en vue jour le 2 mai 1939. Donc, on fête ses
80e anniversaire.
80e ouais. anniversaire, conformément à la loi nationale. Je pense que c'est important de le mentionner. Ouais. Et dès le début de la création de l'Office national, ben, c'est finalement un événement marquant de la cinématographie nationale. Il joue un rôle de pionnier au niveau du documentaire, de l'animation, et ne cesse en aucun point, je veux dire, de développer une nouvelle technologie.
Tout à fait.
Ah, on n'est pas pire jusque-là.
Et
depuis 2014, vous êtes, Claude Jolicard, le 16e commissaire du gouvernement à la cinématographie et président de l'Office national du film du Canada. Puis vous aviez quand même occupé, de 2007 à 2014, le rôle de commissaire adjoint.
Oui,
on connaissait bien un petit peu la...
Et je suis à l'ONF depuis 2003.
Depuis 2003. Ouais. Mais lorsqu'on gratte un peu, finalement, on s'aperçoit que vous êtes surtout spécialiste au départ du droit du divertissement.
Mais c'est ce qui m'a amené à l'ONF. Quand Jacques Ben-Simon était le commissaire, il m'a recruté pour être responsable de tous les services juridiques et relations d'affaires de l'ONF.
Parce que vous aviez travaillé chez Astral.
Oui, j'étais dans le secteur privé. J'avais développé une expertise en coproduction, montage financier. J'étais du côté juridique, mais beaucoup dans l'aspect coproduction. Et à l'époque, l'ONF faisait beaucoup de coproduction sous Jacques Ben-Simon. Et il recherchait une expertise pour mieux structurer nos rapports avec le secteur privé. Puis... c'est ce qui m'a amené à commencer cette belle aventure dans le secteur public.
La grande question, lors de vos études, est-ce que vous étiez prédestiné à aller en cinéma? Est-ce que vous aviez...
Pas du tout, mais par ailleurs, j'avais comme ami à l'école, on était très, très proches, Pierre Chagnon, le comédien, dont le père était directeur de la distribution à l'ONF. Et chaque samedi, on regardait des films de l'ONF dans le sous-sol des Chagnons à Outremont. Ah, oui. Et c'est là que j'ai découvert l'ONF. Et pour moi, c'est sûr que c'est resté ancré dans mes mémoires. Et après ça, dans ma vie plus personnelle, j'ai épousé une femme avec qui je suis toujours marié depuis presque 40 ans, dont le père avait travaillé à l'ONF. Pierre Junot. Oui, de 1947 à 1967. Alors, j'avais toutes sortes de racines.
Vous avez des influx, je veux dire, de l'ONF.
Exactement. Mais par ailleurs, j'ai été longtemps dans le secteur privé en pratique du droit et chez Astral, Quotient, des producteurs privés. Et là, j'ai dépassé ma vie professionnelle dans le secteur public par rapport au secteur privé. Mais jusqu'à tout récemment, j'étais à parité. Ouais.
Claude, vous êtes commissaire, mais vous êtes aussi, comme Guy l'a rappelé, président de l'ONF. Puis, quand on regarde les responsabilités que la loi vous pose, vous avez la responsabilité d'une institution très importante dans l'histoire du cinéma au Canada, qui a un passé, un héritage très, très riche. Et quand j'essayais de vous imaginer dans vos responsabilités, je me disais, vous avez des responsabilités à la fois par rapport au passé de cette institution-là, de continuer à mettre en valeur les acquis importants, mais évidemment au présent, c'est votre travail, c'est plutôt au présent qui se passe, sans jamais perdre de vue, par contre, l'avenir, le futur, étant donné... notamment la bousculade autour de l'histoire technique du cinéma ces dernières années. Où est-ce que vous vous sentez le plus confortable dans ça? À imaginer l'avenir de l'institution, à gérer son présent, dans quoi vous vous accrochez plus facilement? C'est où les pièges que vous voyez sur votre terrain?
Ouais, c'est une très, très, très belle question. Des pièges, il y en a partout. Les défis sont énormes. Et c'est sûr que, puis à chaque fois que je vais au bureau le matin, je ne pense jamais que je suis le 16e commissaire du gouvernement de la cinématographie. Parce que ça effectivement, c'est un petit peu angoissant. Mais il faut se souvenir, puis le titre du poste reflète aussi ce qu'a été l'ONF au début de sa création en 1939. C'était la référence en matière cinématographique pour le gouvernement canadien. Et quand on regarde la loi, le commissaire était aussi le conseiller du gouvernement en matière de cinématographie. C'est sûr qu'au fil des ans, de 39 aux années 60, à l'émergence du secteur privé, quand Téléfilm a été fondé d'ailleurs par plusieurs anciens de l'ONF qui sont partis.
Oui, Spencer, Michael Spencer qui est allé s'installer là-bas.
Voilà. Et là où il y avait l'émergence de la production privée, c'est à partir de ce moment-là, le rôle de conseil du commissaire a commencé à s'éroder. Oui. Et puis c'est devenu une fonction tout à fait symbolique maintenant parce que
y a des équilibres nouveaux qui se faisaient.
Complètement. Et le secteur privé a pris une telle place. Puis l'ONF... est plutôt maintenant devenu un espèce de laboratoire pour la création au Canada. D'un rôle où on était la seule place où tout s'est fait. Quand on pense à tous les grands cinéastes, ils ont passé par l'ONF. Maintenant, on est beaucoup plus dans un rôle plus... On est la petite auto de course qui peut se faufiler partout, alors qu'on était peut-être le grand train au tout début.
Mais le mandat que Grierson définissait, est-ce qu'il est toujours valable? Parce que Grierson, il disait, l'ONF, ça doit parler du Canada aux Canadiens, puis par extension aux gens à l'étranger. Mais en même temps, dans la même envolée, il disait, et l'ONF doit créer un cinéma national au Canada.
Mais je pense que c'est tout aussi pertinent et c'est ce qui nous guide dans tous les projets qu'on fait. On reflète la diversité canadienne. Nos studios qui sont à travers tout le pays, de Saint-John à Vancouver, on a des producteurs qui sont ancrés dans des régions, qui sont à même de développer des sujets qui interpellent les grands enjeux auxquels on fait face. Puis là-dessus, on est très, très proche de la vision que Grierson avait en fondant l'ONF. C'était que la culture canadienne, les enjeux canadiens soient vraiment vus d'une façon propre par rapport à l'énorme voisin américain qu'on a qui était déjà pas mal dans une foulée d'envahissement mondial. Donc, l'ONF, à cet égard-là, a été clé pour créer cet univers-là. Et aujourd'hui encore, nos œuvres, on produit entre 75, cette année, on est dans une année record, peut-être une centaine d'œuvres. Mais tous les films qu'on fait sont ancrés dans cet aspect-là de refléter et de mettre au jour des enjeux qui sont au cœur de la réalité canadienne. Donc, à cet égard-là, on reflète bien le mandat et nos œuvres sont distribuées à travers le monde, entre autres via l'Internet. Donc, on est vraiment encore complètement calqué sur la philosophie de Wilson de départ.
Ouais. Je vais poser une question à un chiffre que vous venez de citer. Vous dites une centaine d'œuvres. Moi, j'ai pas le sens. Vous mettez tout là-dedans. Alors, vous mettez des éléments interactifs parce que.
Oui, on a les œuvres interactives. On a des cours, un court-métrage, un cours de 5 minutes d'animation est une œuvre. Alors, c'est sûr que c'est pas comme une centaine de longs métrages la production au Canada en entier. Mais il reste que dans le domaine de l'animation, du documentaire, des œuvres interactives, nos studios anglophones, francophones. Au total, c'est à peu près ça qui est lancé.
Une centaine? Ouais. C'est un peu surprenant.
Une centaine, c'est vraiment... cette année, on a atteint un niveau... peut-être 75.
Oui, parce que les autres années, on tournait plus autour de 72, 75.
Oui, mais cette année, là, on a une centaine qui sont prêtes à sortir.
Ah oui, à ce point.
Ouais. Dans l'année qui s'en vient, on va... on vient de faire cinq films sur des cinéastes femme des années 40, c'est cinq projets, oui, même oui, si oui, c'est oui, des cinq minutes. Mais il reste que chaque film a une mise en marché, chaque film est une œuvre, chaque film a un réalisateur, chaque film a une, un univers propre qui fait qu'on a quand même une assez grande palette. Ouais.
Avant d'arriver au présent, il y a un élément du passé pour moi qui est extrêmement important, c'est votre collection.
Oui.
On retrouve quoi, 13 000, 14 000 titres ouais, ou à peu près ouais, ouais, depuis ses débuts. Et en étant enseignant en cinéma, ce que je constate en général, c'est que les gens, mes étudiants entre autres, ne connaissent très peu, je veux dire, finalement, cette collection-là.
Okay.
Et ça fait des années que je me pose la question, comment on peut arriver à rendre finalement accessible, ben, non pas rendre accessible, parce qu'elle est accessible.
Elle est accessible, oui. Mais, comment le faire savoir?
Comment le faire savoir? Ouais. Comment finalement le marché du marketing, des ouais, communications mm-hmm, peut mm-hmm, arriver à vendre, dans un certain ouais, sens, ouais, cette collection-là qui est unique?
Oui.
Et alors, je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais moi, ouais, je me ouais, dis, ouais, on a là, je veux dire, un ouais, site, je veux dire, qui est rarissime là, à travers ouais, le monde ouais, là, à, ouais, de par sa production.
Ouais.
Puis on a l'impression que c'est dur de rentrer en contact avec le public.
Mm. C'est une très, très, très bonne question. Puis ça fait aussi partie des préoccupations constantes que j'ai. La préservation de la collection depuis 2009 a été un chantier extrêmement fondamental, prioritaire. On a présentement numérisé toute notre collection active. Alors, on est rendu à peu près à 8 000, 9 000 titres qui sont numérisés. Puis là, maintenant, on s'attaque aux films sur les moissonneuses batteuses de Saskatchewan, ou tu sais, des films...
C'est ceux qui sont restés un petit peu à l'écart, quoi.
Qui étaient moins prioritaires. En ligne, sur NF.ca, on en a à peu près 4 000. Ils sont quand même répertoriés par thème. Oui, on oui, est capable de bien les retrouver. Il y en a 3 000 qui ne sont pas en ligne parce qu'il y a des enjeux de droit, mais ils sont accessibles pour fin d'études. Et quand on va déménager au centre-ville, dans notre espace public, il va y avoir des stations de visionnement où on va pouvoir visionner, vos étudiants vont pouvoir venir visionner ceux qui ne sont pas en ligne sur onef.ca mmh, et qui sont quand même accessibles dans notre banque de données.
Mmh. Un peu comme il y avait avec l'ancienne ciné-robothèque.
Exactement.
Là.
On va recréer, puis ça, c'est une question de droit parce que c'est des films pour lesquels qu'on peut visionner à l'intérieur de nos locaux,
oui,
mais pas en ligne. Mais on n'avait plus de... Ben, présentement, si vos étudiants veulent en voir, ils peuvent venir sur Côte-de-Liesse, on va essayer dans un bureau, mais ce n'est pas très accessible. Alors, il y a cet enjeu de trouver les films, c'est un enjeu qui est généralisé pour toute la cinématographie, tu sais, dans tout ce qui est accessible en ligne. Mais seulement pour vous donner une idée, l'année dernière, nos films ont été vus sur Internet plus de 60 millions de fois. Pas un clic, le film visionné à plus que 75 % au Canada, à travers le monde. Beaucoup, une explosion sur YouTube, sur Amazon, mais aussi beaucoup sur notre propre plateforme. Alors, on a, puis si je ne voyais pas ces chiffres-là, j'aurais exactement la même perception que vous avez.
Mais j'ai remarqué que c'est quand même à peu près seulement 20 % de la population qui était au courant. Je veux dire, dans vos chiffres, là, quand j'ai fouillé un petit peu, et quand j'ai fait des recherches, il y avait, je te disais, peut-être par sondage, j'imagine, ouais, mais qu'on constatait que c'est entre 20-25 % de la population qui était conscient
de
cette richesse-là.
Oui. Puis, c'est le grand défi. Les films sont accessibles, mais la découvrabilité, puis l'engagement qu'on est capable de créer avec le public pour qu'ils sachent qu'il y a tel film qui risque de les intéresser, c'est un défi de tous les jours. Et dans notre prochain plan stratégique, c'est quelque chose sur lequel on va mettre beaucoup d'emphase parce qu'il faut...
Vous avoir des primeurs, là? Qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Là?
Pour nous, la création et le public doivent être intimement liés. Il ne peut pas y avoir de création sans un public qui voit les films. Puis je rejoins exactement ce que vous disiez. On ne peut pas créer uniquement pour créer. Il faut qu'on trouve la façon dont le public... Mais, encore une fois, il y a des chiffres qui sont surprenants. L'année dernière, on a eu au Canada 5 000 visionnements publics. 5 000 fois, des gens sont réunis en petits groupes, en plus grand groupe ou dans une salle de cinéma pour regarder un film de l'ONF, qui a souvent amené à des discussions ou un événement où des gens ont collectivement posé ce geste-là d'aller voir des films ensemble. C'est quand même pas mal, tu sais.
Donc, vous venez d'utiliser le mot déménagement. Je sais que c'est dans l'air. Vous êtes à la veille de faire vos caisses, là. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie quotidienne de l'ONF, le fait d'être dans le quartier des spectacles plutôt que sur Côte-de-Liesse face aux métropolitaines?
Il faut quand même se souvenir que quand l'ONF a été fondée, ils ont été à Ottawa de 1939 à 1956.
Oui.
Et quand, en 1956, ils ont déménagé à Montréal, ils ont déménagé dans une véritable cité du cinéma, un lieu d'exception où tous les métiers étaient faits, des studios, les laboratoires, tout le monde, les musiciens,
les ateliers
étaient extraordinaires. Alors, le building qu'on trouve vieillot, isolé, mésadapté, a été un joyau de la création de la cinématographie canadienne. C'est un édifice qui est inadapté, qui est beaucoup trop grand pour nos besoins. Et on avait besoin de déménager. Les coûts de mise à niveau étaient gigantesques. Et ça a été l'occasion de nous dire, rapprochons-nous du public, rapprochons-nous des créateurs, rapprochons-nous d'un espace effervescent, le quartier des spectacles, où il va y avoir des conditions. Moi, je reste persuadé qu'il va y avoir des projets qui vont naître, ne serait-ce que parce que nos producteurs vont aller prendre un café ou des rencontres impromptues. On sait comment naissent les projets. Il va y avoir encore plus d'occasions. Ça va être un édifice qui va être à l'image de ce qui est l'institution maintenant, ouverte sur le monde, ouverte sur le public, puis au cœur de la création.
Est-ce qu'il y a des infrastructures techniques dans le nouvel édifice?
On déménage entièrement tout ce qu'on a sur Côte-de-Liesse, à l'exception des voûtes qui vont être relocalisées dans un autre édifice qui est pour le centre-ville.
Oui, oui, oui.
Mais on va tout avoir. Alors, toutes les installations techniques, salles de projection, tout ça est en plus petit, à l'ère de la miniaturisation. Mais il n'y a rien qui est sacrifié.
Oui. Claude, vous avez fait référence au plan stratégique tout à l'heure. Puis en faisant mes devoirs, là, je suis allé voir les deux plans stratégiques les plus récents, celui de 2008 et celui de 2013. Dans les deux, le paragraphe de départ est très semblable. Par exemple, en 2008, on dit que l'ONF veut encourager les créateurs, privilégier la créativité et les productions socialement engagées en exploitant les technologies de pointe. Puis en 2013, on dit que les trois grandes avenues, c'est imaginer, mobiliser, transformer. Donc, on est à peu près dans la même mission, si on peut dire. Mais là-dedans, est-ce que ça s'est avéré juste et réaliser ces ambitions-là? Parce que, par exemple, moi qui connais l'Office depuis assez longtemps, puis qui a suivi l'Office, évidemment, à travers ses créateurs, ce que je connais de l'Office, c'est surtout les cinéastes qui y étaient. Mais comme à partir de 2002, il y a un changement profond où il n'y a plus de permanent comme dans un pays socialiste presque, et là, les réalisateurs sont moins nombreux sur place, ça devient des contractuels. Il y a des choses qui ont changé. Est-ce que vous avez l'impression que l'Office, c'est encore un lieu de création où il y a des créateurs qui se retrouvent?
C'est sûr que ça n'est plus ce lieu d'effervescence où tous les créateurs étaient à la cafétéria, les producteurs, puis il y avait tout cet écosystème de... ça, c'est sûr que ça l'est plus... puis moi, quand je suis arrivé en 2003, il y avait encore des réalisateurs internes, mais ça n'existait plus comme ce que ça a déjà été.
Oui.
Et dans nos centres de production à travers le pays, qui sont beaucoup plus petits, on n'a pas ça non plus. Alors, je dirais que la place des créateurs, maintenant, elle est beaucoup plus dans un écosystème plus virtuel, parce que c'est la relation qu'a le producteur avec le créateur, avec tous les artisans de chaque film, mais ça n'est pas cette espèce de réunion où tout le monde... puis moi, je ne l'ai pas vécu, mais des gens beaucoup, de façon très, très emballante, décrivaient l'effervescence qu'il y avait, puis comment.
Oui.
Mais je pense qu'on va pouvoir créer ça de façon informelle au centre-ville. On va avoir un grand espace public où les gens qui vont être propices à aller prendre un café, est-ce que des gens qui ne travaillent pas nécessairement avec nous puissent dire, bon, on va à l'ONF, oui, on se rencontre.
Mais il n'y a pas si longtemps, il y avait les résidences qui étaient un peu là pour un peu essayer de recréer ce contexte qu'on...
Mais ça, les résidences, c'était quand même deux cinéastes qui travaillaient pendant 2 ans. Ça n'avait pas cette masse critique de tout ce qu'il y avait auparavant. Alors moi, je la vois beaucoup plus par... On revit un peu ça dans les grands festivals, comme à Hot Docs, on voit, quand on est plusieurs, on voit tous les... Alors c'est plus à ce niveau-là. Mais je vous dirais que c'est une relation qui est plus individuelle, qui est moins festive, parce que...
Qu'il y avait un côté.
Il y avait ce côté-là.
De rassemblement.
Exactement. Mais en même temps, la qualité des créateurs avec lesquels on travaille, le fait de pouvoir... On travaille avec presque 40% de cinéastes de la relève. On a une parité de réalisatrices, réalisateurs maintenant dans nos œuvres, une grande emphase sur des réalisateurs autochtones. Donc, c'est cette diversité-là aussi, elle se crée par la façon dont nos producteurs travaillent, la façon dont les créateurs nous approchent avec des projets. Et c'est un écosystème qui est plus organique que physique.
Parce que moi, j'ai pas connu la période des années effervescentes des années 60.
De la cafétéria.
Parce qu'en fait, ce que j'ai connu un peu de l'ONF, c'est plus les corridors que j'appelle de l'animation. Parce que les cinéastes étaient plus sur place à partir de 2002. Oui, il y en avait quelques-uns, on sait que la relation directe avec les cinéastes était plus difficile. Alors que ce qui restait un peu du Surcôte de Liesse, c'était finalement ces corridors d'animation où on voyait sensiblement les gens, puis qui donnaient encore cette perspective un peu d'effervescence.
C'est un travail qui est très ancré dans des locaux à l'animation.
Ce qui est encore vrai.
Complètement.
Vous allez recréer au centre-ville?
Tout à fait. Puis même le building a été conçu avec des étages plus élevés pour avoir des caméras d'animation. L'édifice a été conçu pour les besoins d'un studio d'animation, pour une salle de cinéma et tout, mais les studios de mix. Donc, tout ça, des particularités qui ont été prises en compte dans la construction. Donc, l'animation, on va pouvoir... et on va même avoir... parce que constamment, on les dérange, les cinéastes d'animation, avec des visites.
On a été invités.
Exactement. Et on va avoir des corridors où les gens vont pouvoir voir à travers des vitres sans déranger. Et on va recréer une espèce d'atmosphère où ça va être extrêmement palpable sans déranger.
Je regardais, c'est peut-être un cas circonstanciel, mais ce qui m'avait frappé dans les différents rapports sur vos résultats ministériels, c'est qu'en 2017-2018, il y avait eu moins de films d'animation que par les autres années. Et la question que je me posais, vous avez mis beaucoup d'emphase sur les œuvres interactives. Avec les nouvelles plateformes. Est-ce que finalement, ce secteur de l'animation qui était, je veux dire, vraiment qui est un fer de lance de l'ONF, risque pas, je veux dire, d'un petit peu payer la note pour être remplacé par ces œuvres interactives? Parce qu'on sait qu'il y a des rapprochements. Ouais. Alors, je veux dire, souvent, même dans les œuvres interactives, on utilise l'animation. Et ainsi de suite. Comment voyez-vous l'avenir là, entre l'animation et ces plateformes numériques qui semblent être au cœur de votre projet là, actuellement? Ouais.
Mais quand le virage numérique est arrivé en 2009, puis la création des studios de production numérique à Vancouver pour le côté anglophone, puis à Montréal avec Hugues Sweeney, puis son équipe à Montréal, on a pris 25% de nos ressources de production pour ce nouveau genre. Alors, inévitablement, ça a grugé le documentaire et l'animation. Mais il y a une stabilité depuis ce temps-là en termes de ressources. Et les chiffres que vous avez pu voir sont vraiment liés au cycle de production.
Okay.
C'est pas une question qu'il y en a moins
pour l'alimentation,
c'est circonstanciel. Okay. Et puis,
Vous avez mentionné le mot pariété. Je sais que c'est quelque chose qui vous a mobilisé beaucoup depuis un certain nombre d'années. Est-ce que dans les faits, dans le quotidien de la boîte, ça s'est bien mis en place et que vous arrivez à ce que vous souhaitiez promulgué comme norme de travail?
Oui, tout à fait. On a eu, on a été les premiers à prendre cet engagement-là au pays, puis on a vraiment lancé, et ça, je pense, ça reflète bien le rôle d'éclaireur que l'ONF a. En lançant notre engagement sur la parité, on a eu un effet boule de neige avec la téléfilm, la SODEC, Radio-CBC, beaucoup d'institutions qui ont adhéré à ça.
C'est parité au niveau du nombre, mais aussi au niveau du budget, je crois.
Budget, exactement.
Parce que je pense que c'est la problématique.
Oui. Alors ça, c'est un engagement dont on était très, très fiers de pouvoir dire. C'est non seulement le même nombre de réalisateurs, réalisatrices, mais c'est les budgets équivalents. Et j'ai eu une adhésion totale de toute l'organisation. Il n'y a pas eu aucune... Il n'y a pas eu de résistance. Tout le monde s'est investi à part entière. Mais j'ai quand même eu, à l'époque, pas mal de résistance au niveau plus du milieu, parce que me faisait dire, ben, vous allez faire des compromis au niveau de la qualité. Vous allez faire des choix qui font en sorte que ça va, tu sais, pour donner une chance à des bons projets se feront pas. Et puis, comme j'étais souvent confronté à cette question-là, un jour, je me préparais pour une entrevue, c'était chez Rebecca McConnell, et puis je me préparais, je regardais mes chiffres, puis à un moment donné, on est en train de préparer notre rapport annuel, puis je vois le nombre de prix qu'on avait gagnés, puis je demande à nos équipes, combien ont été gagnés par des femmes? Et ça donnait que cette année-là, 60% de nos prix avaient été gagnés par des femmes. En émission, je suis arrivé et je dis, je pense que la question parce que quelqu'un me l'a fait dans l'émission.
Oui, oui.
La qualité, mais là, non. Je pense que on peut prouver que le talent est là. Il s'agit de canaliser les énergies, puis les occasions, puis on va y arriver. Alors, on est extrêmement fiers de ça. Ouais.
Et on parlait tantôt de budget, hein.
Ouais.
Ça reste que c'est, je veux dire, un aspect extrêmement important.
Ouais.
Puis je voyais même que toujours dans vos rapports là, sur les systèmes ministériels de 2016-2017, vous aviez évoqué quelques risques. Et un des premiers, c'est la baisse des revenus de l'ONF.
Ouais.
J'essaie de comprendre parce que,
ouais,
tu sais, des fois, on entend dire qu'il se fait moins de production à l'ONF,
ouais,
qu'il y a moins d'argent.
Ouais.
Votre rôle, c'est d'aller en chercher le plus possible.
Ouais.
Hein? Puis,
oui.
À l'écoute de l'autre côté, est-ce qu'ils veulent en donner plus à la production?
Ouais. Mais tout ça est qu'il y ait moins d'argent, qu'on en fasse moins, que les budgets soient plus bas. Tout ça est vrai, malheureusement. Et on a été confrontés avec la transformation de la consommation du numérique des films, des ventes auparavant aux télévisions qui rapportaient des revenus beaucoup plus importants. Et alors qu'on vend pour des sous la consommation en ligne. Les revenus ont complètement diminué, pas rien qu'à l'ONF, mais dans l'industrie audiovisuelle. Alors, c'est sûr que nous, ça nous a affecté d'avoir une diminution de nos revenus. On n'a pas été indexé depuis les coupures de 96. Il n'y a pas d'indexation. Donc, notre crédit parlementaire reste le même ou à peu de choses près. On a eu une injection de fonds de 3 millions de plus par année.
Avec le changement de gouvernement, il y a eu un geste qui a été fait.
Oui, on a eu 3 millions par année avec le gouvernement libéral qui a été élu il y a 4 ans. Évidemment, nos besoins seraient beaucoup plus élevés que ça.
Oui.
Et on a été confrontés aussi à financer nous-mêmes nos déménagements et tout. Donc, on est assez...
Oui. Il y a une chose qu'on entend souvent quand on est extérieur à l'office, c'est que c'est une institution où les frais généraux autre que la production des films ou des objets audiovisuels est trop importante, qui a un déséquilibre à l'intérieur de cette boîte-là et qui est allé en s'accentuant. Et je sais qu'il y a des gens qui se sont amusés à regarder ces chiffres-là de près sur une longue période, là, notamment à partir de 2002, qui est comme l'année butoir pour voir ce changement-là. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est, cet équilibre-là, est-ce qu'il y a moyen de l'imaginer qu'il va retrouver une certaine harmonie ou si ça devient la réalité de l'institution?
J'ai 4 chiffres à vous donner. 44, 22, 19, 15. Ça, ça fait 100.
Ouais.
44% de nos fonds vont à la production. 22% de nos fonds vont à la distribution. 15% de nos fonds vont à des activités qui supportent la production et la distribution. Et 15% vont à des frais généraux. Et quand vous comparez ça à des chiffres de l'industrie, secteur privé, public, 15% de frais généraux,
c'est même comme le ball game figure qui est toujours...
Exactement. Alors, c'est ça notre réalité.
Donc, ça veut dire que, grosso modo, quand je regardais, c'était à l'entour de 75-76 millions, votre budget, ça peut varier. Il était à cause du déménagement, il y avait un peu plus d'argent. Sur une période de 5 ou 10 ans, on était à l'entour, mettons...
Mettons une moyenne de 70 millions.
70 millions. Ouais, ouais. Donc, ce que vous dites, c'est que...
Je vais poser une question grossière, alors. Le truc de la place des spectacles sur Expo 67, on a vu passer des chiffres pour ça, puis c'était un truc qui a coûté cher.
Très cher.
Bon, c'était où? Où est-ce que je retrouve ça si je regarde votre budget? Ça fait partie? Ça tombe dans production, ça?
Ça tombe dans production. Mais on a créé, quand j'étais nommé commissaire, moi, je viens du secteur privé, puis je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de coproductions. Alors, pour moi, la place des partenariats est essentielle parce que c'est une façon de faire plus en créant des alliances avec des partenaires qui ont des objectifs et qui peuvent avoir du financement. L'exemple d'Expo 67, c'est un projet qui a été entièrement financé par des sources externes et qui n'a pas été financé par notre crédit parlementaire. Donc, on a toute une unité qui est dirigée par André Picard, qui va chercher, on a fait un très beau film, Philippe Bella qui a réalisé un film extraordinaire
pour
le Planétarium. C'est un film qui était financé par le Planétarium.
Oui.
Tous ces projets-là vont chercher des sources externes qui s'ajoutent à nos crédits parlementaires parce que c'est notre seule façon d'avoir plus d'argent pour la production.
Oui.
Alors, notre 44, 22...
Qui fait à peu près 30 millions, si j'ai calculé un petit peu, grosso modo, là, on pourrait dire qu'il y a environ 30 millions de dollars qui est consacré à la production.
Oui, là où on a eu des longs débats avec certaines personnes qui réinterprétaient nos chiffres, c'est que c'est sûr que nous, on a des coûts internes, on a des producteurs, on a des administrateurs, Mais moi, j'ai travaillé dans le secteur privé, j'ai travaillé pour une des plus grosses compagnies de production. C'est le même genre d'infrastructure. Ma femme travaille dans une compagnie de production présentement. Ils ont des producteurs, ils ont des comptables, ils ont des avocats, ils ont des techniciens de salle de montage, ils ont... Tout ça, c'est vrai que c'est des frais fixes, mais c'est des frais liés à la production. Et on a une infrastructure, moi j'ai un comité de direction, on est 5, puis à 5, on a 2 assistantes pour toute la gang, puis qui servent à toutes les divisions. On est une structure extrêmement légère. Et quand je suis rentré à l'ONF, on était 500 employés, on est 400 maintenant. Alors, tu sais,
Donc, ça, avec Claude Picard, commissaire à l'ONF, il ne reste pas beaucoup de temps. Et je voyais que dans vos plans, pour les prochaines années, vous mettiez beaucoup d'emphase sur les nouvelles plateformes, sur le numérique, sur les modes interactifs. Et de l'extérieur, je pense que l'initiative est fort louable, mais on constate aussi, parce qu'on parlait un peu de budget, on constate à quel point cette nouvelle technologie se transforme à une vue,
vitesse folle.
Vitesse folle.
Oui.
Merci. Et c'est encore des coups.
Ouais.
Et c'est là que je trouve qu'il y a parfois pas un double discours, mais qu'un discours qui peut venir pernicieux parce qu'on dit on veut investir là-dedans, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on sait qu'on va se faire rattraper parce que la nouvelle technologie va nous coûter encore de plus en plus cher. Comment jongler
On est continuellement confronté à ça. Une des choses extraordinaires à l'ONF, c'est qu'on a, on a une infrastructure technique qui est au service de la création. Quand on a parlé de la SIC, on a 75 cinéastes qui ont complété leur film cette année grâce à la SIC.
Parce qu'on a
une infrastructure technologique où on fait la post-production qui sert à nos propres productions. Ces coûts-là, il faudrait qu'on les fasse à l'extérieur. Mais c'est vrai que ça nécessite continuellement une mise à niveau. Mais ça nous plaît. On a fait beaucoup de partenariats avec des sociétés qui nous ont amené de la technologie à très, très bas coût parce qu'on était un banc d'essai pour eux de traiter avec une collection de 6000 titres, de développer des techniques de production en interactif, en 3D. Toutes les innovations, on oublie comment, au fil des ans, toutes les grandes innovations technologiques au Canada, dans le domaine du cinéma, ont aussi été développées à l'ONF. IMAX, Softimage, tout ça, c'est né de... Donc, cet environnement-là est propice à la création. Et les nouvelles plateformes, ben, c'est le nerf de la guerre, c'est comment on atteint le public et comment on va bientôt lancer d'ailleurs une nouvelle plateforme éducation qui a reçu un accueil incroyable des ministères de l'Éducation à travers le pays. Et pour nous, comme service public, on considère que c'est essentiel.
Et là, on doit terminer, mais la SIC, ça va être encore dans les nouveaux... Ça va rester, hein?
Complètement.
Parce que c'est drôlement important.
Ça occupe dans l'écosystème une place incontournable. Quand on parle de 75 cinéastes qui n'auraient pas fait leur film, ce n'est pas des films de l'ONF, c'est des films où l'ONF a contribué à leur...
Pour beaucoup de ces cinéastes, c'est leur planche de salut.
Complètement. Hein, complètement, c'est essentiel.
Ça, effectivement. Même les cinéastes les plus critiques vis-à-vis de l'ONF font que du bien à dire.
La critique est constamment une source d'inspiration parce que c'est un milieu en ébullition. Moi, je vois du côté extrêmement positif de toute cette discussion-là parce que ça pousse la réflexion, les actions à un autre niveau.
Merci beaucoup, Claude Jolicoeur.
On vous mobilisera à nouveau quand vous serez rendu au centre-ville.
Ça me fera plaisir.
Ça va être plus simple de venir nous voir.
Oui, avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.